Nous sommes à présent en ligne avec notre invité pour la chronique congolaise de l'étranger, M. Yves Kani Kankwenda. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, vous vivez à Ambala, un district situé à 200 km au nord de New Delhi. Nous sommes évidemment en Inde. Vous êtes parti là-bas pour des raisons d'études, c'est bien ça?
Oui, exactement. Je suis venu ici pour faire mon master.
Je le dis en anglais parce que j'ai pas pu trouver la traduction en français. Et donc là, vous faites un MBA en International Business Marketing. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous étudiez quoi?
International Business, c'est relatif au mouvement des biens, des services, des produits et la législation sur le plan international, les différents mécanismes de commerce sur le plan international. Et puis, en marketing, là, nous nous focalisons sur le produit, la promotion, le public, donc tout ce qui est vente de services, création de besoins et tout le reste. C'est ce que je peux dire en bref.
Alors, Monsieur Yves Kankwenda, vous nous avez dit que vous avez fait le choix de l'Inde pour plusieurs raisons, notamment réadapter votre CV par rapport aux ambitions professionnelles que vous aviez. Mais je voudrais ici qu'on parle du coût des études là-bas en Inde. Est-ce qu'ils sont plutôt abordables ou plutôt élevés?
Il faut dire que les coûts des études en Inde sont élevés. En comparaison avec d'autres pays occidentaux, par exemple, on dirait que c'est moins cher. C'est ça le mot qui me vient à l'esprit.
C'est combien une année académique, par exemple? En moyenne, hein, évidemment.
Ça, les universités diffèrent. Mais en moyenne, pour un master en business administration, vous payez en moyenne 4 000 $ par année.
4 000 $ l'an, c'est beaucoup mieux quand même que les États-Unis ou encore certains pays d'Europe, comme
oui,
la France, l'Angleterre.
C'est beaucoup mieux, sauf que ailleurs, l'étudiant peut avoir une activité, il peut avoir un job, il peut avoir certains mécanismes pour subvenir à ses besoins. Pendant que en Inde, un étudiant étranger est totalement dépendant des ressources qui viennent du pays ou bien de ce qu'il a économisé avant de venir. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens tombent dans le panneau et arrivent sur place et se rendent compte que l'impact financier n'est pas celui auquel ils s'attendaient en venant.
Donc en Inde, il est carrément interdit aux étudiants étrangers de travailler, c'est-à-dire d'avoir un petit job de vacances.
Non, en tout cas, c'est interdit. Pour travailler, il faut finir ses études, faire une demande de permis de travail, puis être recruté quelque part. Et c'est ça le processus. Mais pendant la période d'études, on ne peut pas. Même dans la demande de visa, c'est écrit sur le formulaire que l'ambassade donne.
Vous m'expliquez par rapport au coût des études et de la vie, tout dépend aussi de dans quelle université on est, ça c'est évident, et surtout si on est en province.
Exactement.
Ou à New Delhi, par exemple, la capitale, ou encore dans une autre grande ville comme Bombay. Alors comment est-ce qu'on sent cette différence-là du coût de la vie?
Comme étudiant étranger, la différence du coût de la vie, on le sent d'abord, premièrement, sur les moyens de transport. Quand vous êtes en province, très souvent, vous êtes sur un campus assez bien établi, ou bien vous habitez dans les environs d'un campus, donc le coût du transport est assez réduit. Pendant que quand on est dans les grandes villes, des fois, vous avez votre université à 50 km de votre habitation ou à 30-40 km de votre habitation. Donc, ça vous fait quand même un coût en termes d'argent et en termes d'énergie pour aller au cours tous les jours et revenir. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui joue, exactement. Et le deuxième facteur qui joue, c'est quand vous arrivez à la pause, hein. Vous devez prendre votre petite collation et vous vous rendez compte qu'en province, les coûts et la variété là, de mets présentés sont plus abordables que dans les grandes villes. En province, la vie est très différente. Elle est plus paisible, vous êtes plus dédié à votre activité d'étudiant plutôt que dans les grandes villes. Il y a beaucoup d'autres facteurs à gérer comme le bailleur, le loyer, le transport et tout le reste.
Mmh. Et j'imagine que même pour les loyers, justement, ça coûte un peu moins cher que dans les grandes villes, et aussi pour tout ce qu'on peut dépenser, pour la nourriture notamment. Et en général, est-ce que le coût de la vie est élevé en Inde ou pas?
En général, le coût de la vie en Inde n'est pas élevé. Le tout dépend du style de vie qu'on a choisi.
De mener.
Quand on s'intègre, on devient végétarien comme les Indiens, on utilise des moyens de transport très faciles et peu coûteux comme la moto, le scooter et tout ça. Effectivement, on arrive à rentrer dans leur moule et à sentir que le coût de la vie est assez réduit. Mais quand on s'en tient à notre alimentation africaine et tout ça, et au train de vie assez secoué, on sent le tout à la fin du mois.
Ok. Et est-ce que sur votre campus universitaire, en dehors de vous, il y a d'autres Congolais?
Ah oui. En arrivant ici, j'en ai trouvé une trentaine et actuellement, il y en a 100.
Une trentaine il y a 2 ans. Et là, maintenant, il y en a 100, c'est ça?
Il y a 2 ans, une centaine, ouais.
Alors j'aimerais maintenant, Monsieur Yves Kankwenda, qu'on aborde avec vous un tout autre aspect. C'est l'aspect culturel là-bas. Vous me parliez justement de l'adaptation ou de l'intégration dans cette vie-là en Inde, dans cette vie d'étudiant-là en Inde. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Parce que vous venez d'un monde complètement différent. Et comment est-ce que vous arrivez à apprécier la culture indienne?
Ça, c'est très relatif. Hein. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes assez... La vie ici est un peu communautaire. Donc, je dirais que les Africains sont un peu restreints parmi eux. Les Indiens dans leur coin aussi. On se fréquente sur les places publiques, dans les restaurants et tout. Donc, ça devient... Ça fait que l'influence culturelle que nous avons se limite à des... question d'échange peut-être éducationnel, par exemple avec un étudiant dans un auditoire, il ne sait pas tout ce qu'il parle couramment l'anglais. Donc, à certains moments, on a besoin de comprendre comment ils réfléchissent et à certains moments, on sait qu'ils sont intéressés par tel ou tel autre film qui est sorti en cinéma. On va aussi, on regarde. Des fois, on est surpris de voir que c'est très intéressant et des fois, on n'est pas du tout intéressé. Donc, comment dire, le mélange n'est pas si profond qu'on sente dans notre vie qu'on est en train d'acquérir quelque chose de la culture indienne.
Et sinon, vous, vous parlez des différentes communautés, les Indiens d'un côté, les Africains de l'autre. Vous fréquentez qui, justement, dans cette communauté africaine? Quelles sont les différentes nationalités qu'on retrouve là-dedans?
Sur mon campus, par exemple, il y a beaucoup de Tanzaniens. Il y a beaucoup de Zambiens, il y a des Ougandais, des Nigériens, Malawites, des Congolais de Brazzaville. Donc il y a plusieurs républiques qui sont représentées ici. Mm-hmm. Et voilà, ça crée un univers un peu différent. Ça fait que, étant Congolais, on est plus en train d'apprendre des autres cultures africaines présentes, des autres communautés africaines présentes en Inde, plutôt que des Indiens.
Ok. Merci beaucoup à vous, Monsieur Yves Kani Kakwenda, d'avoir accepté de participer à cette émission. À vous tous qui nous écoutez, aussi bien à Ambala, à 200 km de New Delhi, qu'à travers le monde. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse diaspora@radiocapi.net.